Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Et merci d'être là pour cette rencontre avec Vincent Platini à l'occasion de la parution d'un livre qui s'appelle Écrit fantôme, lettre de suicide, ouais. 1700-1948, paru récemment aux éditions Vertical. Merci Vincent Platini de venir jusqu'à nous. Et merci Charles-Henri Lavielle des éditions Acarsis de nous avoir mis ce livre pour la première fois entre les mains. Il se trouve qu'ensuite on a accueilli Yves Pagès qui nous a recommandé le livre de Vincent. Et j'en profite pour signaler ce livre, paru aux éditions Acarsis, Crimi, donc une anthologie du récit policier sous le Troisième Reich. Voilà, et merci à Sol qui ne nous quitte plus depuis quelques semaines, qui va assurer la modération de la rencontre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sauf que la rencontre est enregistrée, donc vous avez l'occasion de la retrouver sur le site de la librairie, de la faire circuler, si vous pensez que c'est utile. Voilà. Merci et très bonne soirée.
Alors, bonsoir Vincent. J'ai prévu une petite bio te concernant pour qu'on te connaisse un peu mieux. Mais est-ce que je peux te laisser la corriger ? Après l'avoir formulé, peut-être, ou à moins que tu préfères te présenter toi-même.
Non. Non, lance la bio et puis je te
corrige.
Enfin,
la bio, j'ai que très peu de faits, j'ai ce qu'on trouve très facilement. Tu es enseignant-chercheur en littérature à l'université de Kassel, je crois. Tu es également traducteur de l'allemand vers le français. Fabrice montrait à l'instant ton livre Crimi qui porte sur les polars sous le Troisième Reich. Et je crois que c'est une de tes aires de spécialité, le divertissement. Alors à la fois pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi entre deux guerres. Tu as écrit un ouvrage sur la figure du truand pendant cette période. Et du coup, ça va m'amener aussi à ma première question, puisque... Donc tu es chercheur en littérature et là aujourd'hui tu proposes un ensemble d'écrits qui n'ont pas le statut de littérature a priori, mais peut-être que tu leur donnes par ce travail. Et je voudrais juste t'entendre peut-être pour expliquer au fond au public ce qu'est ce livre, d'où il vient et peut-être comment tu es allé à la pêche aux lettres, quel travail d'archives t'a amené petit à petit vers cet objet.
Alors, pour la bio, il n'y a rien à corriger. Ah si, j'étais prof à Kassel et là, depuis un mois, je suis fièrement au chômage. Hein, et dans quelques mois, je vais commencer un nouveau poste. Hein, mais sinon, dans l'ensemble, c'est tout à fait juste. Pour ce qui est de ta question, est-ce qu'on m'entend là ou c'est... Ok, on va en parler assez près du micro. Pour ce qui est de ta question, comment je suis arrivé à ces lettres, quel travail... a enclenché un petit peu ce projet de recueil. Comme tu peux t'en douter, on ne se lève pas un beau matin en se disant « Tiens, je me sens bien de faire un petit recueil de lettres de suicide. » Donc ce sont tout d'abord bien sûr des raisons personnelles, des raisons intimes qui étaient au fondement de ce désir. Ensuite, ce sont des raisons littéraires, une certaine appétence pour la littérature épistolaire, notamment pour, par exemple, les lettres persanes de Montesquieu, où il y a une lettre de suicide à la fin. Bon, je vous spoil les lettres persanes de Montesquieu, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a des raisons intellectuelles. C'est-à-dire que, dans le cadre de mon travail, je suis obligé de faire une thèse d'habilitation à diriger les recherches. qui est une espèce d'autre grosse thèse de doctorat en Allemagne. Et j'ai dû me chercher un nouveau sujet. Et j'ai commencé à réfléchir aux lettres de suicide. Et quelque chose m'est apparu très rapidement, c'est qu'il n'y avait absolument rien qui avait été fait sur les lettres de suicide. Ce que je veux dire, c'est que les lettres de suicide, vous savez tous ce que c'est. On en a, on voit déjà tous plus ou moins ce que c'est. On a tous eu plus ou moins un rapport avec le suicide, que ça soit de près ou de loin, dans notre famille ou personnellement. Les lettres de suicide, ensuite, c'est produit quotidiennement. Quand je dis que c'est produit quotidiennement, c'est que tous les jours, les commissariats, les archives judiciaires reçoivent des lettres de suicide. Tous les jours, il y a des gens qui écrivent des lettres de suicide. C'est un corpus absolument gigantesque. Or, il n'y a rien dessus. Aucune étude, aucune anthologie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les anthologies de lettres illustres, il n'y a absolument aucune mention de ça. À partir du XVIIe siècle, on commence à réunir des lettres dans ce qu'on appelle les secrétaires ou dans ce qu'on appelle les florilèges. Bien sûr, c'est l'Ancien Régime, avec la religion catholique, on ne va pas mettre de lettres de suicide. Mais encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de recueil de ce type qui a été fait. De manière intéressante, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je suis allé frapper assez naïvement au musée de la Poste, que j'aurais demandé s'ils avaient des lettres de suicide. Inutile de vous dire qu'on m'a claqué la porte au nez. Donc, pour résumer, nous avons beaucoup de lettres produites quotidiennement et personne ne s'en est occupé. Plus encore, et ça j'en ai fait l'expérience en travaillant sur ce sujet et en sortant ce livre, les gens s'en détournent. Donc en fait, on a une espèce d'éléphant au milieu de la pièce dont personne ne voulait s'occuper. Et c'est ce qui m'intéressait. C'est toujours ce que je dis, c'est qu'à partir d'un moment où il y a un trou noir, ça attire. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre cet aveuglement. Pourquoi on refuse de regarder ces lettres? Pourquoi on s'en détourne? Donc voilà la motivation. Ensuite, bah, comme tu as dit, ce sont des lettres qu'on refuse de toucher, qu'on a refusé d'éditer. C'est un petit peu... Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de considérer en tant que littéraire des textes qui ne sont pas du tout considérés comme de la littérature, et par la constitution de ce recueil, d'essayer de faire rentrer ces lettres dans le champ littéraire. Si on veut, ce qui m'intéresse, mais ça c'était déjà le cas avec les romans policiers du Troisième Reich, c'est d'essayer de donner une dignité à des textes un petit peu infâmes.
Et alors, pratiquement, est-ce que ça a été difficile pour toi d'accéder à ces objets ? Inversement, est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi on les a encore, ces objets ? Parce que certaines des lettres que tu proposes sont très anciennes et nous ramènent au 18e. Donc peut-être parler aussi de ce statut d'objet judiciaire. Mais j'étais aussi intéressée de... Ben voilà, tu as parlé du musée de la Poste. Je voulais un peu savoir s'il y avait eu des freins institutionnels ou une complexité pratique à accéder à ces objets, ne serait-ce que pour des raisons de classement, par exemple.
Alors pour... ce qui est de trouver le corpus, bon, ça a été une des premières difficultés, puisque où est-ce qu'on peut trouver des lettres de suicide ? À partir du moment où on a compris un petit peu l'économie de la lettre de suicide, ça devient relativement simple. C'est beaucoup de travail, mais ça devient relativement simple d'en trouver. Je me suis dirigé sur plusieurs fonds d'archives. Tout d'abord, les archives judiciaires, pour tout ce qui est lettres de suicide de l'Ancien Régime, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Tout simplement parce que jusqu'en 1791, le suicide est considéré comme un crime. Crime de lèse-majesté, crime contre Dieu. Autrement dit, jusqu'en 1791, enfin en tout cas au XVIIIe siècle, quand un cadavre était trouvé et que ce cadavre était suspecté de suicide, on ne le mettait pas en terre, on le gardait en cellule, on lui faisait un procès. Il y avait ce qu'on appelle un curateur, quelqu'un qui était désigné pour parler à la place du cadavre. Et si le cadavre était reconnu coupable de suicide, on le mettait à mort. Plus exactement, on le suppliciait, on le traînait dans les rues face contre terre, on le pendait par les pieds pour que son visage ne voie pas le ciel, et on jetait enfin son cadavre au porc, P-O-R-C-S. Bon, ceci étant dit, ça explique pourquoi les lettres de suicide sont conservées dans les archives judiciaires. Tout simplement parce que les lettres de suicide étaient des preuves à charge, des pièces à charge. Voilà, alors, ça c'est au XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle, Révolution française, nouveau code pénal, le suicide est décriminalisé et les lettres vont basculer. De preuves à charge, elles vont être preuves à décharge. Les commissaires de police, les inspecteurs vont les chercher sur les lieux pour innocenter la famille, les proches. Donc à ce moment-là, on les trouve dans les archives de police. Bon, il faut croiser un petit peu les index, même, il vaut mieux, enfin, parce qu'on a tous les cartons du commissariat de police, et on a toutes les affaires du quotidien, les voies de fait, les souleries, etc. Comment on fait pour retrouver le suicide ? Eh bien, on va chercher dans le registre de la morgue. Pour chaque cadavre, la morgue indique quelle a été la cause du décès et d'où a été expédié le corps. Donc on trouve suicide, 5e arrondissement, et on va retrouver dans le commissariat à cette époque cette histoire de, et on va voir s'il y a une lettre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le suicide ayant été décriminalisé, les lettres de suicide font leur apparition dans les journaux. C'est-à-dire que les faits diversiers vont collecter les lettres de suicide et ils vont reproduire les lettres dans les filets, dans la presse. Ce qui est assez important pour nous, puisque ceux qui connaissent ce fabuleux lieu que sont les archives de la préfecture de police de Paris savent qu'il y a un léger problème pour le 19e siècle, c'est qu'il y a eu un incendie juste à la commune en fait. Les communards se sont dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée de mettre le feu à la préfecture de police de Paris, et donc on a un énorme trou dans les archives pour tout le 19e siècle. Ce qui, pour le corpus, formait un déséquilibre. Mais à ce moment-là, je suis allé chercher dans les journaux et je me suis épluché les journaux du 19e siècle. J'ai perdu quelques dixièmes aux yeux. Voilà. J'ai ensuite diversifié mes fonds d'archives puisque je suis allé en province, je suis allé en Eure-et-Loire, tout simplement, pour deux raisons. L'Eure-et-Loire, au 19e-20e siècle, un très joli taux de suicide qui s'explique tout simplement, enfin pas par plein de raisons, mais si vous avez déjà été en janvier-février en Eure-et-Loire, vous comprendrez. Deuxièmement, pour une raison plus personnelle, c'est qu'il y a ma maman à Chartres. Et comme je suis à Berlin, j'ai exploité ma maman et je l'ai envoyée chercher des lettres de suicide depuis quelques temps. Et donc, en fait, ces 5 dernières années, ma correspondance avec ma mère a consisté en des lettres de suicide, ce qui m'a épargné quelques années d'analyse, mon Dieu. Donc voilà. Et ensuite, pour le XXe siècle, on a les archives de Paris, où là, il y a ce qu'on appelle les dossiers, enfin des morts classées sans suite, où vous avez un petit peu tout ça. Donc voilà à peu près pour comment j'ai fait pour chercher ces lettres. Mais en tout cas, ça vous indique quelque chose d'important, c'est que les lettres de suicide, c'est un produit des archives policières, un produit des archives judiciaires. S'il n'y avait pas d'enquête, s'il n'y avait pas eu de crime d'homicide de soi-même, il n'y aurait pas eu de lettres de suicide. On ne les aurait pas conservées. Et tout simplement, on ne les aurait pas écrites. Ou en tout cas, on ne les aurait pas écrites comme ça. Puisque beaucoup de lettres de suicide sont faites pour dire « les autres sont innocents ». Ou alors « c'est bien moi qui ai fait le coup, j'assume mon suicide ». Ou alors pour s'adresser au commissaire de police, pour dire « voici mon cadavre, voici ce que j'ai fait », et essayer un petit peu de négocier, d'avoir un lien particulier avec le commissaire. Et si tu veux, on peut faire une première lecture à ce niveau-là. Alors, excusez-moi.
Juste pendant que tu bois, un edit sur ma dernière question. Ça t'arrive que des archivistes avec qui tu as de bonnes relations t'appellent pour te dire qu'ils en ont vu remonter une qui aurait échappé au premier coup de peigne ou pas du tout ?
Oui, et ça c'est le bonheur d'avoir des archivistes qui s'intéressent à votre sujet. C'est que j'ai eu effectivement trois archivistes, aussi bien en Eure-et-Loire qu'à Paris, qui était tout à fait intéressé par les lettres de suicide. Et bien, ça me permet, ou alors on peut, tu veux qu'on aborde la question de l'album de suicide ensuite
après.
C'est parti à lire, vas-y.
Donc, voilà. Mais bon, pour répondre à ta question, d'un point de vue institutionnel, il n'y a pas vraiment de frein. Il faut, c'est autre part que se situent les freins. Donc on va lire quelques lettres pour que vous compreniez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Donc on va commencer, et cela commence le vendredi 24 décembre 1773 à Saint-Denis. Bourdeau et Humain, deux dragons du roi, entrent à l'auberge de l'Arbalète. Ils sont agréables et honnêtes, plaisantes avec la domestique, ils règlent comptant. Ils passent leur journée à rédiger plusieurs lettres. Le jour de Noël, ils se font friser, se promènent en ville, mais ils refusent de se rendre à la cérémonie religieuse. Ils déjeunent de pâté et de boudin, boivent trois bouteilles de champagne. Vers 17h, ils demandent une chandelle à la servante. Puis, ils s'assiedent face à la cheminée, l'un à côté de l'autre, et se brûlent la cervelle. Le procureur du roi lance des poursuites pour homicide de soi-même. Le suicide est alors considéré comme un crime capital. Le 19 février, la cour criminelle de Paris condamne les cadavres à être pendus par les pieds sur la grande place de Saint-Denis. Il est aussi ordonné que le bourreau brûle les papiers trouvés dans la chambre et que soient dénoncés ceux qui en avaient fait des copies. Et parmi ces papiers, il y a le testament des deux dragons qui se sont tués à Saint-Denis le jour de Noël 1773. Un homme qui meurt avec connaissance ne doit rien laisser à désirer à ceux qui lui survivent. Nous sommes dans ce cas. Notre intention est d'empêcher que nos hôtes ne soient inquiétés et de faciliter la besogne à ceux que la curiosité, sous prétexte de formalité et de bon ordre, fera transporter ici pour nous rendre visite. Humain est le plus grand de nous deux, et moi, Bourdeau, je suis le plus petit. Il est tambour-major du régiment, et moi, je suis simple dragon de Belzunce. La mort est un passage. Ce principe, joint à l'idée que tout doit finir, nous met le pistolet à la main. L'avenir ne nous offre rien que de très agréable, mais cet avenir est court. Humain n'a que 24 ans. Pour moi, je n'ai pas encore 4 lustres accomplis. Aucune raison pressante ne nous force d'interrompre notre carrière. Mais le chagrin d'exister un moment pour cesser d'être une éternité est le point de réunion qui nous fait prévenir de concert cet acte despotique du sort. Enfin, le dégoût de la vie est le seul motif qui nous la fasse quitter. Si tous les malheureux osaient être sans préjugés et pouvaient regarder leur destruction en face, ils verraient qu'il est aussi aisé de renoncer à l'existence que de quitter un habit dont la couleur nous déplaît. On peut s'en rapporter à notre expérience. Nous sommes dégoûtés de la scène universelle. La toile est baissée pour nous. Et nous laissons nos rôles à ceux qui sont encore assez faibles pour voir les jouer quelques heures. Quelques grains de poudre vont briser les ressorts de cette masse de chair mouvante que nos orgueilleux semblables appellent le roi des êtres. Messieurs de la justice, nos corps sont à votre discrétion. Nous les méprisons trop pour être inquiets de leur sort. L'écu de 3 livres qui restera sur la table payera la dernière bouteille que nous avons bue. À Saint-Denis, le jour de Noël 1773, Bourdeau est humain. Postscriptum. Il y a encore une bouteille de surplus qu'on prendra sur nos effets. Bourdeau. Marius Perrault, 10 octobre 1774, à Paris. Le Figaro rapporte le suicide de Marius Perrault, 81 ans, et Jeanne Moureux, 9 ans. À la mort de ses parents, la fillette était restée avec son grand-père dans une petite chambre, rue de l'Ancienne Comédie. Le vieux avait travaillé à colorier des images pour nourrir et soigner l'enfant chétif. L'ouvrage vint à manquer. 8 jours plus tard, Marius et Jeanne se jetèrent du pont de la Concorde. On retrouvera dans la poche du vieillard une lettre ainsi conçue. Monsieur le commissaire de police, je ne peux pas voir plus longtemps ma petite Jeanne avoir besoin. il n'y a que les vieilles gens qui devraient souffrir. L'enfant, qui est bien raisonnable pour son âge, m'a dit qu'il fallait mieux mourir, et j'ai été de son avis. Nous allons tous les deux au ciel, dont j'espère qu'elle me fera ouvrir la porte. Je ne laisse personne sur la terre. On peut donc nous enterrer n'importe où, pourvu que nous soyons ensemble. Signé, Marius Perrault. Émile G., 7 août 1947, à Paris. Le gardien de la paix Émile G. devait prendre son service ce soir-là, à 23h45, au poste des Halles. Il ne se présente pas. À 2h35 du matin, le gardien de Flandre se rend chez l'absent. Il revient peu après, avec un papier trouvé sur la porte. Émile G. demande qu'on se présente chez sa belle-mère et que l'on ramène sa femme pour qu'elle ouvre la porte. En effet, Odette G. a quitté le domicile conjugal depuis une quinzaine de jours. Le chef de poste retourne avec De Flandre au domicile de leur collègue. Il défonce la porte et trouve Émile G. allongé dans le couloir. Il tient de la main droite son pistolet automatique de service posé sur le ventre. Ses collègues trouvent une autre lettre dans l'appartement. Paris, le 6 août 1947, 20h30. Décidé d'en finir avec la vie qui m'a été dure et pénible. J'ai demandé aujourd'hui à ma femme de reprendre la vie commune, et l'ayant prévenue de mes intentions, en présence de sa mère et à son domicile, 21 rue Pont-Neuf, Paris 1er à 19h30 exactement, ce jour même, ma belle-mère m'a très mal reçu. Et pour cause, et sa réponse a été celle-ci, il n'y a pas de danger que ce bonheur nous arrive. Tout ce qui arrive aujourd'hui, la faute incombe ma belle-mère. Je ne suis pas une perle, non, mais j'avais beaucoup de qualités. Madame ne savait pas ce que c'était de travailler à la maison, ni lessive, ni cuisine, ni course, ni vaisselle, en un mot, rien. J'étais ce qu'on pourrait qualifier de Joseph à la maison. Je ne regrette rien. Maintenant, je demande à être enterré, comme un chien, ni plus ni moins, ni fleur ni couronne, que l'on me rende aucune visite, que ma tombe soit un pré, quatre planches en sapin. Je suis la dupe sur toute la ligne, ceci est sans importance. Quant à toi, Odette, tu as eu certainement tort, tu t'en mordras les doigts un jour, ta vieille mère indigne qui a tant menacé les idées de suicide depuis la mort de ton père n'a jamais daigné mettre à exécution. Quant à moi, j'ai eu le courage de tenir mes engagements. Je meurs en brave. Je n'ai pas peur d'affronter la mort. Si l'on dit que celui qui se suicide est un lâche, moi j'estime qu'il faut être courageux. Et je mets à exécution. Adieu, sans rancune. Tu aurais pu éviter tout cela, sans importance aucune. Tu réfléchiras un jour. Tu t'apercevras de ton geste et de ton incompréhension. Je te recommande mon petit chéri, qui pour moi était un dieu, mon Patrick, mon papa. Dire, mon petit, que tu ne reverras plus ton père. Adieu, mon chéri. Excuse-moi d'être aussi lâche que je le suis, tout en étant un brave pour affronter la mort. Quant à toi, ma vieille maman, je vais te faire beaucoup de peine. Tu sauras sûrement m'excuser. Ma vie est brisée, rien ne m'intéresse plus. Je laisse un petit orphelin, c'est le plus grand malheur. Adieu, maman, j'ai fini de vivre. Deuxième feuillet. Postscriptum. S'il y a justice, vraiment, s'il y a un dieu, ma belle-mère doit être châtiée sévèrement. Je lui souhaite bonne chance. Excusez l'écriture. Écriture en diagonale au crayon. Odette, tu as eu peur que je te vole quelque chose. Refais ta vie. Ne reste plus avec cette vieille sorcière qui est ta mère. Elle mérite au moins 10 balles dans la peau. Elle a fait mourir ton papa adoptif de chagrin. Et quant à toi, elle te fera du mal. Elle n'aime pas un autre bébé, tu le sais. Et un beau jour, il lui arrivera un malheur lui aussi. Monsieur le commissaire de police, cuisinez cette mégère. Elle est dangereuse. Faites votre travail comme il se doit. Les absents auront toujours tort. Je suis policier avant tout. Sur le coin supérieur gauche de la feuille, suite à monsieur le commissaire de quartier. Madame, ma belle-mère possède une arme, revolver, à son domicile, 21 rue Pont-Neuf. Deuxièmement, une carabine dans sa propriété à Barny, Saint-Augustin, Seine-et-Marne, dans la grange, au-dessus de la cave. Que justice soit faite. Et pourtant, je ne suis pas méchant. Adieu, monsieur le commissaire. Un ouvrier, le 14 juillet 1846, à Paris. Le Constitutionnel rapporte que sur l'esplanade des Invalides, je cite, « un ouvrier, saisissant le moment où passait une lourde voiture chargée de pierres, s'est jeté sous la rue, sous la roue, et eut la tête broyée. Dans une de ses poches, cet homme avait placé une carte à jouer, sur laquelle il avait écrit son nom seulement, et au-dessous, ces mots. « Je meurs librement. »
Ah oui, c'est comment rebondir là-dessus ? C'est une de mes préférées. Alors, j'ai plein de choses à dire, mais je vais faire ce retour de lecteur avec lequel peut-être vous serez en concordance, ayant découvert ces lettres que je suppose vous ne connaissiez pas. C'est que quand on m'a confié la modération de cette séance, mes amis m'ont dit « Oh là, des lettres de suicide, mais quelle horreur, mon pauvre, ça va être sinistre. » Et c'était globalement l'a priori principale. Et j'avoue que j'avais un petit peu cet a priori aussi. Et en réalité, ce que j'ai découvert, et je trouve qu'on découvre aussi à ta lecture, c'est que c'est assez vivifiant. Alors bien sûr, il y a des choses tragiques, terribles, il y a des histoires de vie peut-être dont on parlera, et des circonstances aussi récurrentes qui sont signifiantes sur le plan social. Mais c'est aussi extraordinairement vital et porteur, je ne sais pas comment le dire, c'est assez entraînant. Et même à ta manière de lire, qui parfois, même moi, de manière interne, j'avais tendance à le faire comme une déclamation. Peut-être parce que ce sont des derniers mots. Donc j'aurais aimé peut-être t'entendre là-dessus, voilà, sur cette qualité de la lettre de suicide. Et peut-être aussi en lien avec les catégories que tu as choisi de faire. Voilà, qui peut-être aussi constituent des ensembles signifiants dont on n'a pas tout à fait l'idée ici, mais qui existent dans le livre.
Alors, que je te rassure, cette réaction par rapport au livre, par rapport au sujet de recherche, ça fait des années que je l'ai. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, tout d'abord, la première réaction, c'est que beaucoup de personnes ont essayé de me dissuader de travailler là-dessus. Dire non, on n'y va pas. Parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu glissant. Enfin, j'habite en Allemagne, à Berlin, il y a juste 5 mois de soleil par an. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais... ça a été aussi une des belles découvertes de ce travail, c'est que ça n'a pas du tout été déprimant. Je ne vais pas dire que ce n'est pas frappant, que ce n'est pas bouleversant, mais ce n'était pas déprimant. Ces lettres, effectivement, regorgent de vie. Et personnellement, elles m'ont beaucoup aidé à relativiser les moments de mort, les moments de déprime... etc. Mais revenons à ce que tu disais sur ces lettres qui regorgent de vie. Tout d'abord, comme vous l'avez entendu, certaines lettres se veulent drôles, ou en tout cas joyeuses. Certaines personnes ne veulent pas laisser un souvenir lugubre, mais plutôt une image d'elle joyeuse, ou en tout cas avec de l'humour. Ensuite, certaines lettres peuvent être tout à fait à la fois macabres et drôle. Des lettres peuvent être, on va dire, des espèces de camailleux entre le macabre et le drôle. Là, j'ai reproduit une lettre de suicide qui date du 1er avril 1947. Une lettre que j'aime beaucoup. 1er avril 1947, où il y a dessiné un poisson d'avril dessus, qui sourit de manière très sympathique, avec marqué juste en dessous « Ni fleur ni couronne ». J'espère que le remords te suffira. Alors, donc tout ça pour dire que c'est pas un monolithe, une lettre de suicide. Il peut y avoir des moments absolument tragiques et des moments très très drôles. Ensuite, cette question de la vie à l'intérieur des lettres de suicide, c'est tout le sujet de mon travail. C'est que ces lettres, je les considère comme... des outils, des techniques de soi, des outils à partir desquels on peut faire un travail sur soi. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui écrivent, pas tous, mais beaucoup de gens qui écrivent ces lettres de suicide, vont avoir l'occasion de prendre la plume alors qu'ils se sont fait écraser, piétiner par la vie. Ils se sont fait rouler dessus par l'existence. Au dernier moment, ils vont avoir l'occasion de prendre la plume pour parler d'eux-mêmes avec leurs propres mots et de dire « voilà comment je suis, voilà comment j'étais » et de donner leur version des choses et de laisser leur nom. Ce que je veux dire par là, c'est que grâce aux lettres de suicide, certaines lettres de suicide en tout cas, les personnes qui ont été malmenées par la vie, par la société, cessent d'être des objets de discours pour se faire des sujets d'une énonciation, pour faire entendre leur voix. Et c'est pour ça qu'il y a une vitalité dans ces lettres, c'est qu'ils peuvent, à la dernière minute, se réinventer et de se présenter comme sujet à part entière. Donc il y a une espèce de vivacité, tout simplement, parce que s'ils laissent ces lettres, c'est aussi pour qu'on entende leur voix. Et c'est aussi pour ça que nous les lisons ici.
Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as fait ce choix éditorial quand même assez fort, de vraiment, alors à mon sens, beaucoup travailler ce paratexte, et on l'a entendu dans tes lectures, tu contextualises toujours à minima la lettre, peut-être déjà aussi parce que, j'imagine, parce que c'est des éléments de contexte que tu trouves dans les archives policières et judiciaires, mais cette vitalité peut-être, est-ce qu'elle vient pas de là ? C'est-à-dire que la manière dont tu restitues, toi, les derniers instants, et même si c'est un peu un degré zéro, enfin, on sent une forme de distance, voilà, tu t'en fais pas du tout des caisses, mais il y a quelque chose là d'une mise en récit que tu prolonges, toi. Et moi, ouais, j'aurais voulu savoir un petit peu comment tu avais travaillé ce paratexte que tu proposes.
Le paratexte était quelque chose d'un petit peu compliqué dans la mesure où je ne pouvais pas balancer ces lettres sans aucun contexte parce que ça n'aurait pas été du tout compréhensible. Mais d'autre part, je ne voulais pas noyer le texte par des informations. Je ne voulais pas noyer le texte par des théories sociologiques ou historiques ou ce que tu veux. Et c'est vrai que quand on trouve une lettre de suicide dans les dossiers de police, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de rapports d'experts, les experts toujours, qui s'emparent véritablement de la lettre de suicide, qui savent mieux que le suicidé ce que le suicidé voulait dire de lui. Donc, j'ai dû trouver la juste mesure, et c'est à toi de me dire, ou c'est à vous de me dire si je l'ai trouvé, hein, mais de faire à chaque fois, pour chaque cercle, pour chaque section du livre, une espèce d'introduction historique et littéraire pour donner les enjeux de certaines périodes, de certains types de lettres. Et pour chaque suicidé, j'ai regroupé un petit peu les informations que je trouvais dans les procès-verbaux, mais je refusais d'une part de narrativiser, de dramatiser la recherche, les informations, et ensuite je ne donnais que les éléments signifiants, que les informations signifiantes pour comprendre la mise en scène de ce suicide. Puisque, à mon sens, un suicide est toujours une mise en scène. On décide d'un certain cadre, d'un certain décor, d'un certain costume. Et il me paraissait important d'essayer de juxtaposer de manière la plus neutre possible, un petit peu comme des didascalies au théâtre, pour donner les éléments qui font sens et qui permettaient en fait au texte de déployer ses significations. Puisque un des grands enjeux de ce paratexte, de ce dispositif éditorial qu'on a mis en place avec Vertical, c'était de donner suffisamment d'informations sans déterminer à l'avance le sens des lettres. Donc en fait, ne comptez pas sur moi, ne comptez pas sur ce livre pour vous donner la signification d'un suicide ou d'une lettre de suicide. J'espère laisser suffisamment d'informations et suffisamment d'espace pour que se déploie les différentes significations de chaque lettre, avec les ambiguïtés.
Ça fait écho aussi à ton préambule, ton avant-propos, il me semble, quand tu dis, tu poses voilà, que ton projet forcément doit s'inscrire dans le respect des souffrances. Est-ce que c'est aussi ça que tu as derrière la tête quand tu réponds à l'instant ?
Alors, oui, tout ça, effectivement. Une espèce d'encart d'avant-propos, je dis que ces lettres méritent le respect des souffrances et les attentions de la lecture. Donc on va y venir. Le respect des souffrances, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait deux écueils que je voulais éviter. C'était le pathos. On n'a pas besoin de pathos avec ces lettres. Et il suffit de les lire de manière très neutre avec les éléments que nous avons pour ressentir une émotion. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter, et pas besoin de mettre des violoncelles sur ces lettres. Ça aurait été, à mon sens, indécent. C'est le premier écueil que je voulais éviter. Deuxième écueil que je voulais éviter, eh bien, c'est de tomber dans le cabinet de curiosité. Quand on manipule ces lettres, qu'on les retrouve avec l'écriture manuscrite, avec des taches de sang parfois, avec des témoignages des enfants ou des proches. On comprend très rapidement qu'il n'y a rien de piquant dans ces lettres. Donc je voulais éviter le cabinet de curiosité, je voulais éviter ce que... Enfin, il y a un éditeur américain qui a fait une espèce de petite anthologie de lettres de suicide hein, qu'il appelle lui-même « pure pornographie ». Je voulais absolument éviter ça. Quelque chose, encore une fois, d'obscène, de ce qu'on ne va pas pouvoir mettre en scène. Bon, c'est pour ça que j'ai opté pour ce dispositif paratextuel, enfin, ce dispositif de texte. Mais ensuite, bah, comme j'ai dit, c'est que ces lettres méritent le respect des souffrances et les attentions de la lecture. Et c'est justement par les attentions de la lecture qu'on va respecter les souffrances. Qu'est-ce que j'appelle attention de la lecture ? Attention, on peut le comprendre dans plusieurs sens. Ça peut être une attention dans le sens d'une prévention, d'être aussi une certaine prévenance. On va faire attention, on va accueillir ces lettres. Une attention, ça peut être aussi à comprendre comme un regard attentif. Un regard attentif, par là, j'entends un regard littéraire qui transforme un texte en littérature par l'attention qu'il lui dédie, qu'il lui confie. Un regard qui va appuyer légèrement sur le texte, qui va le relire pour faire advenir un sens littéraire. À mon sens, et très rapidement, c'est ce que j'ai ressenti dans ces lettres, il faut lire ces textes un petit peu comme de la poésie. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas forcément tout d'abord, mais on va y revenir. On va les répéter encore et encore. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là, mais si vous ouvrez un recueil de Saint-Jean de Perse, on ne comprend rien du tout au début. Et puis on va revenir au fur et à mesure sur la page, et puis tout d'un coup, la musicalité, les rimes vont faire advenir le sens. Pour les lettres de suicide, c'est exactement la même chose. En tout cas, ça a été mon expérience. À force de les relire, à force de les retranscrire, à force de les lire à voix haute et de comprendre qu'il y avait une musicalité, le sens advient. Donc c'est pour ça, cette idée d'attention, de prévenance et de lecture proprement poétique, c'est pour ça que je préfère parler non pas d'anthologie, mais de recueil, dans le sens d'un recueil de poèmes et d'un recueillement.
Et alors il y a aussi un autre, enfin, il y a beaucoup d'intérêts dans ce livre. Moi, parmi ces intérêts, il y en a un qui m'a un peu cueilli, c'est cette espèce d'histoire alternative qui se construit aussi dans le livre. C'est vrai qu'habituellement, ben voilà, on entend parler des hauts faits d'armes, les grands personnages, les grands héros, on entend parler de l'armée, voilà, grandes figures, grands généraux. Et là, finalement, avec ces suicidés, on a accès à une histoire alternative. Donc voilà, j'aurais voulu aussi qu'on parle de ça, de cette espèce de terme transverse aussi de l'échec. Et des catégories d'échecs. Je l'avais un petit peu évoqué tout à l'heure avec les catégories que tu fais. On ne se suicide pas sans raison, ou alors, bon, parfois les raisons ne sont pas expliquées, mais quand même, il y a des gens qui expliquent leurs gestes. Et souvent, ça vient bah, avec ces espèces de creux de l'histoire, ou dont on entend trop peu souvent parler.
Effectivement, on va. Enfin, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Mais pour ceux qui n'ont pas lu le livre, d'une part, toutes les personnes, les scripteurs, les suicidés qui sont dans ce livre, sont des personnes qui ont été oubliées. Ce ne sont pas des personnes célèbres. Ça tient au fait, bon, c'est un choix très conscient de ma part, mais il faut se souvenir que pendant très longtemps, la littérature épistolaire, les lettres, n'ont été considérées que dans la mesure où elles avaient été écrites par des illustres personnages, des personnalités historiques. Depuis, les éditions, les méthodes d'édition ont changé, on publie les lettres de Poilu, etc. Mais moi, je voulais effectivement m'intéresser aux gens, on va dire, qui ont été oubliés, pour mettre en valeur leurs textes. Puisque sinon, on se serait intéressé au suicide de tel grand auteur, je ne sais pas, Monterland ou Gary, et on aurait interprété la lettre par rapport à l'œuvre de l'auteur ou par rapport à la grande vie illustre. Donc voilà, donc, moi, ça m'intéressait de prendre, de considérer ces gens. Bien sûr, c'est influencé par tout ce qui est la micro-histoire, la Ginsburg. C'est aussi Foucault avec la vie des hommes infâmes. Pour ma part, c'est aussi important, un relais important, c'est Pierre Michon et les vies minuscules, hein, puisque moi, je m'intéresse aux morts minuscules, hein, qu'est-ce que c'est que ces gens qui se sont tués et qui, s'ils n'avaient pas été pris dans la lumière des archives, du pouvoir des archives, auraient été complètement oubliés. Donc voilà, c'était un petit peu ça qui m'intéressait, tout simplement ces personnes qu'on dit anonymes, alors qu'elles sont pas du tout anonymes. Ces personnes, il y avait quelqu'un qui me disait oui, tu donnes la parole aux gens qui ne l'ont pas ou quoi que ce soit, ce genre de formule à la Léa Salamé qui est juste pas possible. Et non, pas du tout. Je donne pas la parole aux gens qui ne l'ont pas. Je ne donne pas un nom aux anonymes. Ces personnes ont pris la parole, n'ont pas besoin de du tout de moi. Ils avaient un nom. Ils n'avaient pas besoin de moi pour l'écrire. Il y a une lettre que j'aime beaucoup et qu'on lira peut-être ensuite, mais d'une cuisinière à Paris qui sait à peine écrire et qui... la dernière phrase de cette lettre de suicide, c'est « Je finis en disant mon nom, Brigitte Nourry ». C'est pas juste signer sa lettre. On termine sa lettre de suicide en disant « Je finis en disant mon nom ». On se nomme soi-même. On prend enfin part au discours. Voilà. Je ne sais plus quel était ton... En revanche, j'ai oublié la deuxième partie.
Est-ce que je m'en souviens seulement ?
Ouais, non, mais enfin, on peut... Enfin, tu parlais de la structuration aussi de...
Les thèmes, oui.
Ouais, les thèmes du livre. Comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment les gens prenaient la plume pour se réinventer, se dire eux-mêmes. Pour classer les lettres de suicide, classer c'est un très grand mot, on aurait pu prendre des critères sociologiques. Quelle classe sociologique s'est tuée par âge ou par genre, par métier, ce que vous voulez. On aurait pu prendre un classement historique selon quelle période, ou on aurait pu faire encore pire, on aurait pu prendre un classement médical selon quelle maladie. Bien sûr, je ne voulais pas faire ça. Ça aurait été déterminé des lettres par quelque chose qui était extérieur à elles. Donc moi, ce qui m'a intéressé, ce que j'ai voulu faire, c'est organiser ce recueil selon la figure, l'image que les suicidés présentaient d'eux-mêmes. Quand on se tue, qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme image de soi ? Comment on se décide comme sujet ? Je suis quoi ? Tu es quoi quand tu meurs ? Eh bien, il y en a qui vont se constituer comme sujet face à la police. Ben, je suis quelqu'un qui doit répondre de moi-même face à la police. Ou alors, je me constitue comme sujet amoureux. Je me considère comme sujet amoureux, je me tue. Je me constitue comme sujet malade. Je jargue de ma maladie. Donc voilà à peu près ce qui m'intéressait, et de voir comment on allait déformer, on allait prendre ses propres mots pour se présenter comme sujet politique, révolté politique, ou malade, ou amoureux. Sachant bien sûr que une lettre politique peut être aussi une lettre amoureuse. Sachant aussi que quelqu'un qui se présente comme malade peut se présenter comme malade face à la police. Donc c'est pour ça que j'appelle pas ça des chapitres, mais plutôt des cercles, des choses qui se croisent et qui vont résonner entre elles. Donc voilà.
Et tu parlais à l'instant de la cuisinière qui meurt en disant son nom. Moi, ça m'évoque aussi finalement l'envers de cette situation-là, avec un certain nombre de lettres que tu ne classes pas à part, mais qu'on retrouve comme ça de cercle en cercle. Ce sont ces gens qui tiennent à être anonymes et qui veulent disparaître, avec notamment une de mes préférées, alors je ne vais pas la spoiler, en même temps elle est très courte, mais de cet homme qui ne veut pas qu'on sache qui il est. Mais il dit, enfin, si jamais vous deviniez, je lègue mon porte-plume à un tel, voilà.
Oui, enfin, il y a plusieurs personnes qui veulent être anonymes, ce qui est très intéressant parce qu'au XVIIIe, XIXe siècle, il y a toute la mise en place des procédés d'identification, il y a toute la mise en place des cartes de sûreté, des cartes d'identité. Et puis, il y a tout d'un coup des gens qui disent non, vous ne me reconnaîtrez pas, vous ne saurez pas qui je suis. Et c'est quand même, il y a une ou deux lettres qui sont quand même assez fortes de ce point de vue, c'est qu'on va laisser une lettre pour dire « je ne laisse pas de traces ». Il y en a un notamment qui se suicide aux Champs-Élysées en 1790, si je ne me trompe pas, en laissant comme lettre « vous ne saurez pas qui je suis, je ne viens pas de Paris, j'ai pris mes dispositions pour effacer toute trace ». je n'ai pas de papier d'identité sur moi. Et effectivement, la police ne retrouve jamais qui c'est. Bon, il y en a plusieurs comme ça qui disparaissent sans vouloir laisser de traces. Mais peut-être puisque... est-ce que tu veux une deuxième section de... Puisqu'on parlait de... Alors, comme hier c'était la Saint-Valentin, je vous ai fait un petit pot-pourri de lettres de suicide amoureuse qui sont parmi mes préférées. Alors ça commence avec Brigitte Nourry, le 12 Brumaire de l'an 2, autrement dit le 2 novembre 1793 à Paris. Vers 7h du matin, Brigitte Nourry, 28 ans, cuisinière, se trouve derrière une porte cochère de la rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois. Elle discute avec un domestique, Antoine Inguerel, 30 ans, surnommé « la jeunesse ». Celui-ci clôt la conversation et sort chercher du pain. Quelques instants plus tard, il entend un coup de feu. Interrogé, Inguerel explique qu'il refusait d'épouser Brigitte, bien qu'elle fût enceinte. On retrouve dans le portefeuille de la morte une lettre adressée au « citoyen la jeunesse ». Mon ami, comme tu n'as pas voulu te marier, tu voudras bien me faire enterrer, moi et ton enfant. Je suis plus attaché à toi que tu n'es à moi. Je meurs pour toi. Je file en t'embrassant du meilleur de mon cœur. Tu te souviendras que si j'avais aimé d'où que toi, je ne perdrais pas la vie pour un ingrat comme toi. C'est égal. Je file ma vie à tes pieds. Je te pardonne de tout le peine que tu m'as causé. Tu as fait mon malheur. Tâche de faire le bonheur de notre que tu aimes mieux que moi. Tu te souviendras. Le conseilleur n'est pas le payeur. Je te prie de vouloir bien inviter toute ma famille à mon enterrement. Et je finis en disant mon nom, Brigitte Nourry, le 1er décembre 1793, l'an 2 de la République. J.F., en mars 1835, à Paris. Le journal Le Constitutionnel rapporte qu'un jeune homme de 22 ans s'est empoisonné avec, je cite, « une décoction de pierre infernale ». C'est-à-dire du nitrate d'argent et de l'acide nitrique. Sur sa table, de nuit, une lettre. Je meurs dans la religion catholique. Je lègue à mon père et à ma mère ma dépouille mortelle, regrettant qu'ils aient laissé grandir et se développer une créature de conformation aussi désagréable que leur fils. Douée des facultés les plus expansives et les plus tendres, ma figure a toujours fait peur aux femmes. Je vais chercher dans les cieux une société qui ne s'effarouche pas à mon aspect. Car j'imagine que, débarrassée de son enveloppe charnelle, mon âme n'effraiera pas les habitants de l'autre monde. Étienne Duchesne, 7 avril 1823 à Verdun. En pleine nuit, Étienne Duchesne, horloger de 24 ans, rentre ivre chez son père, qui le réprimande. Un quart d'heure plus tard, il se pend dans sa chambre. Dans son rapport, le préfet précise qu'il fréquentait, je cite, « des mauvaises sociétés ». On a trouvé dans sa chambre un billet ainsi conçu. À 14 ans, j'ai connu l'amour. À 20 ans, j'en étais l'esclave. Et à 24 ans, il m'a rendu fou. Henriette B., 15 novembre 1947, à Paris. Le samedi, vers midi et demi, Georgette, marchande de 4 saisons, revient à son domicile rue de Saussure. Sa fille Henriette, 13 ans, devait être à l'école. Elle est étendue dans sa chambre. Elle saigne d'une blessure au ventre. Un fusil est posé non loin. Le soir même, la mère va trouver la directrice d'école d'Henriette. Celle-ci, la directrice, l'informe d'une convocation suite à un incident. La directrice déclare plus tard à la police qu'Henriette était une élève très moyenne, marquée par les troubles de la puberté, alimentant son esprit par la lecture des romans. La directrice avait intercepté samedi dernier un message entre Henriette et une camarade de classe. Je cite les déclarations de la directrice. Le message portait des indications concernant des rencontres avec un certain Jean-Claude, qui prouvait, surtout dans une phrase, que les auteurs avaient cessé d'être naïves. Je l'interrogeais. Henriette protesta, mais baissa la tête avec confusion devant la phrase incriminée. Je lui demandais quand elle aurait 14 ans. « En janvier, » me répondit-elle. « Bien, mais en attendant, il y a des choses que les mamans ne doivent pas ignorer, et tu demanderas à la tienne de venir tantôt me parler. » Henriette décède le 18 novembre. Sur la table de la cuisine, la mère a trouvé une feuille d'un cahier d'écolier. « Maman chérie, je meurs, mais promets-moi, tu ne peux pas faire cela à une mourante qui te demande de ne pas pleurer après. Car moi, qu'est-ce que je suis ? Une enfant. Continue ton travail de 4 saisons. Mange bien. Henriette ou Youyou ? » René C. 10 juillet 1947 à Paris. René C., 35 ans, contrôleur à la SNCF, vit depuis 3 mois chez sa belle famille à Issy-les-Moulineaux. Elle l'a accueilli avec Pierre et Alain, ses 2 enfants. René était très affecté par le décès de Jeanne, son épouse, le 16 avril dernier. Les 2 enfants ne savent encore rien du décès de leur mère. Le 26 juillet, l'un des enfants convainc le père de dîner à Paris. Il passe la nuit dans leur appartement, un logement de fonction SNCF, rue de l'Estrapade. Ne les voyant pas revenir, le beau-frère se rend sur les lieux le lendemain. Il sent le gaz. René est couché sur un lit avec ses 2 enfants. Il porte à une main une bague de femme, à l'autre 2 alliances. Sa main droite, la main droite de René, serre un collier à grains d'ivoire. Dans la salle à manger, les policiers trouvent une lettre adressée à sa belle-famille. Paris, le 10 juillet 1947. Ma chère Suzanne, mon cher Henri, je vous confirme, pour que vous compreniez bien, que mon bonheur avec Jeanne était complet et de tous les instants. Nous sommes restés trop longtemps séparés, sans que notre accord en soit altéré, bien au contraire, malgré toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter. Puis, nous avions enfin pu nous réunir et les grands espoirs étaient venus nous bercer. Maintenant, il n'y a plus rien. L'âme est partie. Je ne crois pas au miracle, je n'ai pas d'espoir. Je vous prie de me pardonner les ennuis que je vais encore vous causer. Ce seront les derniers. Je vous remercie de tout cœur de l'affection que vous avez toujours témoignée à notre Jeanne. Elle était heureuse de se sentir aimée. Elle vous aimait beaucoup. René C. PS. J'ai aimé Jeanne plus que tout. PS. Je demande. Que l'on mette sous ma tête le petit paquet des vêtements que Jeanne portait lors de notre dernière sortie ensemble. Que l'on me laisse nos 2 alliances et la bague que Jeanne me confiait lorsque nous devions être séparés pour une certaine durée. Le collier à grains d'ivoire que Jeanne mettait pour me faire plaisir. Et mon porte-carte que Jeanne m'avait offert il y a 17 ans. Que l'on nous réunisse tous les 4 au cimetière d'Ivry avec écrit sur la tombe C. René, Jeanne B. sa femme et leurs enfants Alain et Pierre. Si Monsieur F., mon supérieur, n'y voit pas d'objection, je sollicite que le logement, qui risque de se retrouver libéré, soit loué à 2 jeunes agents de mon service, récemment mariés, qui éprouvent de grosses difficultés pour se loger. Jeanne M. 12 juillet 1947, à Boulogne-Billancourt. Vers 13h, les locataires d'un immeuble de la rue Victor Hugo sentent une odeur de gaz au 5e étage. Le concierge va chercher la police et un voisin ouvre la porte. Ils entrent, dit le rapport de police, je cite, dans l'appartement où un ordre et une propreté parfaite régnait. Jeanne M., 38 ans, est couchée sur une chaise longue. Son beau-frère explique qu'elle s'entendait mal avec Minou, son mari, du fait des écarts de conduite de Minou, mais elle lui restait très attachée. On trouve les feuillets de son calendrier où elle égrène les travaux ménagers et les jours après le départ de son mari. Jeudi 3 juillet, Saint-Anatole. Minou est parti. Jour 1. Vendredi 4 juillet, Sainte-Berthe. Ta place sera toujours dans mon cœur, malgré tout, malgré tous. Je t'aime et je n'en ai pas honte. J'attendrai ton retour car tu m'aimes et tu comprendras tous tes torts lorsqu'une suce sera plus butée contre toi-même. Samedi 5 juillet, Sainte-Zoé. Triste nuit, triste réveil. Henriette. Jour 3. Dimanche 6 juillet, Sainte-Lucie. Repassage. Fait. Jour 4. Cafard. Lundi 7 juillet, Sainte-Aubierge. Couleur, linge, fait. Jour 5. Cafard. Mardi 8 juillet, Sainte-Virginie. Ceinture, dentiste, fait. Jour 6, cafard. Mercredi 9 juillet, Sainte-Blanche, dentiste, fait. Corsage, blouse, café, fait. Jour 7, résolution. Jeudi 10 juillet, Sainte-Félicité. Faire tremper linge blanc, fait. Jour 8. Vendredi 11 juillet, Sainte-Olga. Le pantalon est chez la couturière. Il est 19h30. Il ne viendra plus. Jour 9. Fin. Je termine avec Marie-Périne Rigaud, 5 janvier 1836, à Paris. Une lingère de 28 ans aimait un jeune militaire. Ils avaient rompu depuis quelques jours. Le soldat cherchait à la voir. Il trouva porte close. Il fit ouvrir la porte. Il la découvrit sur son lit. Marie-Périne s'était asphyxiée au charbon et avait commencé à écrire sur un papier. « Je meurs parce que mon ami n'a pas voulu que... »
Alors, je ne connaissais pas l'avant-dernière lettre parce qu'il me reste encore quelques-unes. Mais elle m'en évoque d'autres dans lesquelles les scripteurs essayent de raconter leur suicide et essayent d'ouvrir une temporalité assez longue.
Pour la lettre du calendrier, je me permets de vous montrer ça, puisque en fait, on a reproduit les... Enfin, j'ai pris des photos, donc vous pouvez voir sur son agenda. Oui, alors... Ces lettres avec une certaine temporalité, à partir du 19e siècle, il va y avoir une espèce de nouveau mode d'écriture, si on veut. C'est qu'il va y avoir des gens qui vont se suicider, mais bien sûr avec un modus operandi particulier, c'est-à-dire qu'ils s'asphyxient au charbon ou au gaz, ou alors ils prennent du poison. Et ils vont écrire seconde par seconde leur agonie. C'est ce que j'appelle des lettres cardiogrammes, en fait. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas véritablement auparavant et qui correspond au 19e siècle à un nouveau rapport à la temporalité. Au 19e siècle, c'est le moment où le quotidien va être organisé heure par heure. On va avoir des montres au 19e siècle. Il va y avoir des horloges un petit peu partout. Il va y avoir une rationalisation de la journée de travail. C'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a une révolution dans le paradigme médical de cette époque. On passe de la médecine nosologique, si on veut, à la médecine clinique. Enfin bon, ça, c'est si ceux qui ont lu La naissance de la clinique de Foucault vous reconnaîtrez. Mais en fait, les médecins vont s'intéresser de plus en plus au développement de la maladie. Et ils vont considérer aussi que la mort, c'est pas un moment bien particulier. C'est plusieurs moments de dégradation jusqu'à l'arrêt des fonctions vitales. Donc, on a cette espèce de contexte de discours, et au fur et à mesure, eh ben, il va y avoir de plus en plus de personnes, pas non plus tout le monde, mais qui vont écrire des lettres en mourant. Et ça, c'est assez intéressant, puisque d'un point de vue manuscrit, on peut suivre au fur et à mesure l'agonie, on peut suivre le trait qui va descendre, on peut suivre les tremblements. Ensuite, c'est aussi là que l'on voit qu'il y a une concurrence entre le suicide et la lettre, dans la mesure où tant qu'on écrit la lettre, enfin en temps normal, quand on se suicide, tant qu'on écrit la lettre, on recule la mort. Ici, c'est la mort qui va interrompre la lettre.
Ça me fait penser que cette pulsion scopique, elle existe aussi pour les gens qui sont autour du suicide. Et ça m'évoque une curiosité vraiment incroyable qu'on découvre dans ton livre, qui est vraiment une particularité. D'ailleurs, tu lui consacres une espèce d'encart un peu à part, qui est l'album des suicides de Édouard Revel, c'est ça, pharmacien en prison, qui est vraiment un objet incroyable.
Oui, c'est un... Alors, l'album de suicide, enfin, si tu peux retrouver la page, que... c'est un document très particulier que... voilà. Qu'un archiviste héroïque des archives de la préfecture de police de Paris m'a sorti, qui était, il avait même pas de code archivistique, rien. Et c'est un album qui a été dessiné à la main, bien sûr, par le pharmacien de la prison de Mazas à Paris, entre 1850 et 1875. Et ce pharmacien avait, non pas un hobby, mais en tout cas une occupation, c'est que dès qu'il y avait un suicidé dans les cellules, il dessinait le cadavre. Il le dessinait au crayon, de manière très détaillée. Et c'était bien sûr fait avec l'aval de sa hiérarchie, puisque ça permettait de comprendre au mieux comment les suicidés avaient pu passer à l'acte en étant emprisonnés. On est dans le panoptique, on est dans la surveillance complète du 19e siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'il y a un prétexte scientifique d'objectivité, au fur et à mesure des dessins, on va voir que ce pharmacien va mettre un petit peu en scène les suicides. Il y a des détails avec un gardien qui passe un œil dans le Judas, ou alors il dessine un détenu qui se jette par la fenêtre, scène à laquelle il n'a pas pu assister. Ou alors, eh ben, il va prendre un certain plaisir, en tout cas un certain intérêt, à dessiner beaucoup plus précisément les nœuds qui ont été faits pour pouvoir se pendre, donc de profil, de face, etc. Donc, sous couvert, enfin, ou en parallèle de la prétention scientifique, de la prétention de surveillance, il y a une espèce de plaisir esthétique qui va commencer à se former. Et bon, ce document, il est effectivement absolument ahurissant. Il était absolument, il était complètement inédit. Il n'y en a bien sûr qu'un seul au monde qui est aux archives de police. Et ça fait partie des belles trouvailles, entre guillemets, belles, avec, enfin, sud, belles d'un point de vue esthétique, si vous voulez, de ce travail de recherche.
Tu as beaucoup mentionné, et voilà, sans doute tu as raison, parce que c'est un thème absolument dominant, la place des institutions, la relation à la prison, qui est quand même massive. Hein. Beaucoup de gens aussi se suicident pour échapper à la prison, ça je l'ai noté. Mais il y a aussi, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point la précarité aussi est un thème transverse très dominant. Ce qu'on n'a pas forcément senti, parce que c'est vrai, Saint-Valentin oblige, tu nous as lu des lettres d'amour, mais il y a quand même beaucoup aussi la question de la pauvreté qui ne donne pas d'issue et qui est un peu, pour moi, un des aspects politiques de ton livre, en fait. Parce que ça sort le suicide aussi de cette espèce de mythologie de la personne qui va mal, on ne sait pas pourquoi elle va mal, on ne se suicide pas seul, en fait. Il y a quand même à chaque fois un champ social qui est palpitant, quoi, derrière ces lettres.
Oui, enfin, il y a beaucoup de suicides de misère. C'est quelque chose qu'on a tendance à occulter. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident parce que, tout simplement, elles n'ont plus rien à manger, elles n'arrivent plus à payer, ou alors elles ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants. Il y a quelques... Et là, eh bien, il y a la dimension économique qui rejoint la dimension sociologique, c'est-à-dire que c'est une honte de ne plus pouvoir donner à manger à ses enfants. On n'est plus digne d'être père ou mère. Donc il y a cette dimension-là. Ça donne lieu aussi à des lettres très particulières, hein, puisque sur quoi on écrit quand on n'a plus un sou. C'est aussi ça le problème. On voit que tout d'un coup, le papier est de très mauvaise qualité. Il y a une lettre qui figure pas, mais que j'ai retrouvée, que je trouvais très intéressante, mais juste pour ce détail-là. C'est au XVIIIe siècle, quelqu'un qui n'a plus le sou va rédiger ses lettres de suicide avec la date, en disant « je me suicide parce que je n'ai plus d'argent », plus ou moins. Mais il reçoit de l'argent, donc il recule son suicide. Il va rayer la date de sa lettre, et quelques mois plus tard, il va remettre une autre date. Et puis il re-raye, parce qu'il il retrouve encore un petit peu d'argent. Et au bout de la troisième fois, je crois, eh bien il se suicide. Donc il gardait cette lettre de suicide pour l'utiliser quand il n'avait vraiment plus d'argent.
Ça m'évoque aussi le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les lettres, elles jouent plusieurs rôles. Elles ont une qualité judiciaire, de témoignage, ça croise aussi l'écriture poétique. Ce sont aussi des testaments, tu l'as dit. Et c'est intéressant de voir que, même chez les plus pauvres, et peut-être particulièrement chez eux, la notion de ce qu'on laisse, même matériellement, est importante. Et il y a quand même comme ça, là aussi, un peu un thème transversal de ces inventaires que moi j'ai trouvé fantastiques, parce que aussi ma discipline c'est le design, donc je trouve ça fascinant, de ces petits objets, de choses de peu qu'on laisse, on n'a plus rien, mais bon, on laisse son linge de corps à sa bonne ou ce genre de choses.
Oui, alors il y a ça fait apparaître pas mal de choses. Ta question, tout d'abord, effectivement, il y a dans la lettre de suicide, il y a une forme qu'on retrouve très très souvent, c'est le testament. Une lettre de suicide peut aussi servir de testament. Et c'est intéressant parce que ces deux genres littéraires, de la lettre et du testament, sont en symbiose, véritablement. C'est-à-dire qu'ils vont se renforcer l'un l'autre. Par là, je veux dire que, d'une part, le testament, comme vous le savez, ça a une performativité différée. Par là, je veux dire que on écrit un texte, un testament, et ce testament a un effet concret que bien plus tard, quand vous mourrez, vous écrivez « Je lègue à Vincent, j'ai besoin d'argent, je lègue à Vincent toute ma fortune », d'accord, mais ce « je lègue » ne sera effectué que quand vous êtes mort. Dans la lettre de suicide et les testaments, eh bien, c'est ça qui est fort, c'est que la lettre de suicide réalise le testament, puisque la lettre de suicide dit « je suis mort, je me tue et je lègue ». Et d'autre part, le testament renforce la lettre de suicide, puisque le testament a une valeur légale. Donc l'image posthume que vous voulez laisser, vous le faites passer chez le notaire, si vous voulez. Donc c'est une première chose. Ensuite, comme tu l'as dit, ça permet en fait de payer des dettes, le testament. Ça permet aussi de pardonner. Le testament, historiquement, ça appartenait aux arts de mourir, Artes Moriendis, pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre de texte. Et ça faisait partie des choses à faire avant de mourir, que l'Église catholique demandait de faire. Puisque le testament, ça permet de régler les problèmes matériels, pour pas qu'il y ait de disputes après vous. Ça permet de pardonner à vos ennemis, de pardonner les offenses qui ont été faites. Donc en fait, le testament, c'est l'historien Ariès qui disait que c'était un passeport pour l'au-delà. On règle les choses à faire, et puis comme ça, on peut partir. Donc oui, il y a des règlements, des gens qui règlent des petites choses, des sommes dérisoires, vraiment, parfois c'est un bouton, parfois c'est 3 francs. Mais c'est aussi pour dire, moi j'ai été correct, je pars pas en volant quelqu'un. Donc c'est aussi une preuve de probité qu'on règle des petites choses, ça fait vraiment, les bons comptes font les bons amis, et je suis pas un voleur. Bien sûr, ça permet aussi de régler des comptes, le testament. Puisque quand on lègue des objets, la question c'est à qui on lègue. Et a fortiori, à qui on ne lègue pas des choses. Donc je vais juste citer deux petites lettres qui sont de ce point de vue intéressantes. C'est en 1829, c'est le constitutionnel qui dit qu'il y a un monsieur R qui souffrait d'une maladie incurable, qui a acheté au Père Lachaise une concession. Il a ordonné au fossoyeur de creuser un trou, de le mesurer avec son corps, et donc il a payé comptant son monument funéraire. Ensuite, il se tue, il s'asphyxie, et sur sa table, on trouve un testament, donc, qui déshérite sa famille, et il écrit « J'ai été malade dernièrement, mes parents d'accourir et de me prodiguer leurs soins. Revenu à la santé, ils m'ont laissé là. Ils ne voulaient donc que mon bien. Ils ne l'auront pas. Voilà, ça c'est ça. Et il y avait un autre testament que j'aime beaucoup aussi, qui date de 1800, qui est le testament d'un élève pharmacien qui s'est pendu. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais dans sa chambre, on retrouve deux lettres. On retrouve une lettre du pharmacien Cadet, qui était le grand pharmacien de cette époque, pharmacien impérial, qui était connu dans tout Paris pour sa belle mine. C'était quelqu'un d'assez fringant, très mondain, qui était connu aussi pour sa plume acérée. Et cette lettre, écrite en calligraphie avec un très joli papier à lettres, dit à ce petit élève pharmacien, « Venez demain chez moi pour une affaire qui est importante pour vous. Salutations. » Donc vraiment une convocation assez hautaine. Donc on trouve cette lettre-là, et à côté, on trouve le testament de cet élève pharmacien qui était l'exact opposé de Cadet, puisque c'était un élève pharmacien pauvre. Il avait un pied beau, si je me souviens bien. Il avait la petite vérole, donc il était assez moche. Et son testament n'est pas du tout sur un beau papier, c'est écrit n'importe comment. Et il fait les comptes en disant « bon bah, je dois 6 francs pour mes leçons, je dois 10 francs de vin, je dois 3 livres ». Il dit « je n'ai rien fait, je ne peux juste plus réapparaître devant la société ». Et il dit « bon voilà, on me doit ça, je dois ça, je le rembourse ». Et vraiment entre deux annotations, il dit « je dois quelques petites choses à Monsieur Cadet ». Et il ne précise pas. Donc on s'imagine que c'est ça qui a déclenché le suicide. On ne sait pas ce qu'il a volé ou ce qu'il a fait à Monsieur Cadet. Mais je trouvais que c'était intéressant de voir comment, au détour d'un testament, on pouvait régler un petit compte comme ça.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ces suicides de groupe aussi. Et des gens qui se suicident ensemble ou de manière rapprochée. Et dont les lettres... Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elles se répondent? Je ne sais pas. En tout cas, elles participent un peu d'un même effet, ou parfois peut-être aussi d'une même mise en scène. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec les deux dragons au tout début de la lecture.
Oui, enfin, là, on pourrait parler encore longtemps des suicides de groupe. Il y a effectivement plusieurs suicides à deux, même à trois, quatre, parfois, durant la Révolution. Il y a des députés qui, en sortant du tribunal révolutionnaire, qui se plantent un poignard à quatre. Les lettres dans les suicides de groupe, ça peut avoir plusieurs fonctions. Là, on ne fera pas le tour, mais ce qui peut être intéressant, ce qui peut arriver, c'est que ces lettres font office de contrat, où on dit véritablement, nous sommes d'accord pour mourir ensemble, ce n'est pas un meurtre. Ça peut être aussi plus problématique, entre guillemets, c'est qu'il y a des suicides de groupe, des suicides en couple, homme-femme, et quasiment tout le temps, c'est l'homme qui prend la plume et on ne sait pas du tout ce qu'il en est de la femme. Et il y a parfois des gros doutes. Un suicide qu'on va qualifier amoureux ou passionnel peut tout simplement cacher un féminicide. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on a un petit peu tendance à oublier.
Et autre sujet, alors après, je voulais pas forcément qu'on parle de tous les cercles, mais il faut dire qu'ils sont tous très intéressants. Qui produit aussi des effets miroirs un peu intéressants sur notre époque, c'est les suicides pour maladie. On se rend compte finalement, alors voilà, aujourd'hui on a quand même pas mal de débats sur l'euthanasie et la liberté de mourir ou de choisir les conditions de sa mort. Là, ça permet de faire un trajet aussi historique sur cette question-là qui est quand même intéressant.
Oui, c'est aussi un vaste sujet, mais c'est vrai qu'on va voir évoluer la question de la maladie et du suicide. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on va parler plutôt de mélancolie noire. La personne va dire « je suis pris d'humeur, je suis pris de vapeur ». Et puis au XIXe siècle, on va assimiler le suicide à une folie, à une aliénation. Et au fur et à mesure, ensuite, on va avoir l'apparition de la psychanalyse freudienne, tout ce genre de choses. Mais ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est dans le suicide par maladie, il y a très souvent des personnes qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'elles souffrent. Elles ont tout à fait leur esprit, mais elles ont trop mal. Donc, et ça se reflète dans les lettres. dans les lettres manuscrites. Tout d'un coup, on n'arrive plus à lire. Donc ces espèces de pattes de mouche charrient une douleur de plusieurs années parfois. Il y a des personnes qui disent « je n'arrive plus, je suis ankylosé, je pars ». Il y a des phrases quand même très fortes. « Je suis paralysé, donc je pars ». C'est assez intéressant. Et ces lettres vont reprendre un vocabulaire médical. Parfois, les malades connaissent très très bien leur maladie. Ils vont le prouver en utilisant le vocabulaire médical. Mais ils envoient aussi une lettre à leur médecin pour leur dire « c'est un échec ». Donc c'est un revers, au sens du terme, c'est-à-dire un coulisse et un échec de la médecine. Il y en a qui se suicident, qui se tirent un coup de fusil à côté du centre médico-légal, tout simplement, en disant « voilà, vous pourrez faire l'autopsie, j'ai ça, ça, ça et ça comme maladie ». Il y en a qui demandent aussi à ce qu'on prenne leur corps, ils font don de leur corps à la science, en disant « voilà, j'ai telle et telle et telle maladie, je suis un très bel exemple à explorer, allez-y ». Donc, quelque chose assez vaste, mais où là, pour le coup, on est tout à fait dans cette idée que le malade n'est plus objet du discours médical, mais va se faire sujet du discours médical.
Ton évocation des pattes de mouche me fait penser à un autre aspect qui peut-être est un petit peu anecdotique, mais que moi, je n'ai pas pu m'empêcher de noter, c'est la question de l'orthographe. Dans ton respect et dans ta posture face à ces lettres, il y a aussi la volonté de les transcrire telles quelles, ce qui quand même est une gageure, hein, parce que parfois, quand il y a des choses dans la marge ou plusieurs polyscriptums les uns par-dessus les autres, c'est quand même compliqué. Et puis il y a des moments où l'orthographe est complètement défaite. Alors il y a dans les journaux, souvent ils les corrigent et ils le disent. Et puis il y a des moments, alors là pour le coup on se rend compte, hein, ce truc de la langue française paravolo, c'est faux. Enfin, hein, pour le coup, des problèmes d'orthographe et d'orthographe complètement fantaisiste, il y en avait de tout temps, j'imagine. Mais j'ai trouvé ça alors à la fois intéressant comme document contre la perfection idéale de la langue française qui aurait existé avant, soi-disant, mais aussi très touchant.
Oui, alors ça a été un choix très rapide, hein. Enfin, ça a été fait très rapidement, mais très précocement plutôt, on pourra en reparler, mais c'est vrai que la maquette du bouquin avec les différentes typographies, avec l'orthographe qu'on n'a pas corrigé justement, ça a été beaucoup, 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 beaucoup de travail, hein. Et ça nous a tous coûté des cheveux, des dixièmes dans les yeux. Et de manière intéressante aussi par rapport à cette expérience, c'est que on se rend compte qu'on a tendance à corriger inconsciemment l'orthographe. On est tellement formaté par l'écriture qu'on corrige constamment. Donc effectivement, donc, au XVIIIe siècle, il y a de toute manière beaucoup de règles d'orthographe qui n'ont pas été fixées. Il y a encore beaucoup d'illettrisme. Et on n'allait pas remettre des normes extérieures aux lettres. Il y a aussi le choix de garder l'orthographe phonétique, tout simplement parce que ça permet d'entendre des accents du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, des accents de la rue, des accents populaires oubliés, qui n'ont rien à voir avec le français, entre guillemets, standard. Donc c'était ça qui m'intéressait. Ensuite, ça permettait aussi de comprendre les jeux de mots involontaires. Il y a quelque chose qui est passionnant, c'est qu'il y a parfois j'ai une jeune fille qui se suicide au milieu du XVIIIe siècle et qui n'arrête pas de parler à son cher oncle, mais cher comme de la chair. Hein. Donc voilà. Donc c'était un choix. Et je pense que c'était pas une mauvaise idée. Ça permet aussi de faire entendre la musicalité de ces lettres.
Je regarde notre ami le libraire. Tu penses que peut-être aller vers les questions?
Ouais, ou alors moi, je fais une dernière série de lectures pour dire au revoir et puis on peut enchaîner.
Pas définitivement. Hein,
Non. Je réapparais. Donc c'est juste une dernière série où c'est au revoir. Marie-Colette. 19 juillet 1816 à Amiens. À Amiens, une morte est repêchée dans la Somme. Marie-Colette, 39 ans, mariée à Jean-Baptiste Tellier, ouvrier teinturier. Marie-Colette avait déposé son panier à quelques centaines de mètres de la Somme. Il contenait un jupon, un mouchoir de cou, un tablier et une lettre à son mari. Embrasse mes enfants, pour moi, je quitte Amiens. Adieu pour la vie. Joseph Fédon, 24 septembre 1875 à Paris. Après avoir fait un bel héritage, Joseph Fédon avait quitté son travail en province pour mener une vie joyeuse à Paris. Une fois l'argent croqué, ne trouvant plus d'emploi, il s'est pendu dans son garni du 24 rue Assar. Il a laissé un billet. N'ayant plus rien à porter chez ma tante, je me mets moi-même au clou. Nicolas Herbert, 9 juillet 1910, à Paris. Malade de la moelle épinière et morphinomane, le tapissier de 37 ans a été admis 2 jours auparavant à l'hôpital Boussicault. Il se lève une première fois dans la nuit. Le garde malade l'oblige à se recoucher. Il se pend dans les toilettes vers 4h30 du matin. Il a écrit sur la pancarte de son lit d'hôpital « Je sors sur ma demande. » Herbert. Suzanne B. Henri B., 40 ans, en 1947, cherche à entrer chez lui. La porte est verrouillée. Sa femme, Suzanne, 38 ans, s'est asphyxiée dans la cuisine. Le couple vivait en mauvais termes, explique Henri. Son épouse avait, dit-il, un chagrin intime. Elle lui a laissé un billet. Henri, tu n'as pas tenu ta promesse. J'ai tenu la mienne. Victor L., 14 avril 1947, à Paris. À 8 heures du matin, Marguerite L. et son fils, issus d'un premier mariage, frappent à la porte de la chambre d'hôtel où loge Victor L. L'ancien légionnaire, Soux, les avait congédiés la veille. Ils ouvrent la porte avec une fourchette. L'homme de 45 ans s'est asphyxié au gaz. Quelques mots sont écrits à la craie sur une ardoise. J'en ai marre. Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions.
Quand on est policier, comment on fait pour être sûr que c'est vraiment une lettre de suicide et pas une sorte d'alibi ?
Alors, merci pour ta question. C'est qui est très bonne, en fait, puisque quand on est policier, il va y avoir toute une procédure pour vérifier, et notamment en comparant les écritures, en comparant les signatures, en cherchant aussi, en regardant aussi où a été trouvée cette lettre. Donc, c'est des choses assez basiques qui nous paraissent évidentes maintenant, mais qui, à l'époque, au XVIIIe siècle, se sont mises progressivement en place, en fait. Et en les mettant en place, eh bien, les policiers vont se faire experts de lettres de suicide et vont faire véritablement apparaître la lettre de suicide. Ils vont lui donner la définition, en fait. Pour maintenant, une vraie lettre de suicide, ça doit être manuscrite, si possible, avec une signature, etc. etc. Mais, bien sûr, il y a des petits malins qui vont essayer de se débrouiller autrement. Et j'ai un ou deux exemples dans ce recueil où il y a notamment quelqu'un qui est accusé d'assassinat, tentative d'assassinat, qui va envoyer 2 lettres de suicide en disant à sa femme... Je ne sais pas ce qui m'a pris, tu ne me verras plus jamais, et à son employeur, pour dire je me jette tout de suite à l'eau, vous ne retrouverez jamais mon cadavre, etc. etc. Seulement, 24 heures plus tard, il envoie une autre lettre à sa femme pour lui demander son passeport, un peu d'argent et des affaires. Lettre qui est interceptée et il sera jugé. Mais oui, enfin, il y a. C'est un subterfuge, ma foi, assez commun. Mais c'est intéressant, parce que, pour le coup, cette possibilité va créer la lettre de suicide et les critères pour reconnaître les lettres de suicide. Ce qui est assez passionnant, ce qui est assez marrant, en tout cas, à voir, c'est que les commissaires vont se faire spécialistes de la comparaison des signatures. Et ça, en fait, dans l'histoire de l'art, ça a un nom. Quand on arrive à reconnaître les signatures ou qu'on arrive à reconnaître une œuvre d'un, d'un artiste en histoire de l'art, on appelle ça un connaisseur. Le connaisseur au XVIIIe siècle, c'est celui qui a suffisamment de connaissances en histoire de l'art pour dire ça c'est un Rembrandt, ça je peux vous attester que... Et voilà. Et tout d'un coup, le policier va être connaisseur de lettres de suicide et va attribuer une valeur d'authenticité à la lettre de suicide. Autre question ou...
Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une première livraison? Il y en aura une deuxième apparemment.
Ouais. Si, si, ouais, si je, si j'agonise pas avant, mais oui. Non, parce que c'est, ce recueil était conçu comme un produit dérivé de mon étude sur les lettres de suicide, de mon habilitation à diriger les recherches. Et bien sûr, comme un petit malin, ben, j'avais voulu faire comme avec le polar du Troisième Reich, c'était sortir deux bouquins en même temps, histoire, histoire de faire bon malin. Et bon, le Covid s'en est mêlé, l'âge aussi sans doute, et j'ai pas réussi à terminer mon HDR avant le recueil. Donc j'ai mis la charrue avant les bœufs, donc vous avez le produit dérivé avant le plat de résistance. Donc je sais pas, d'ici un an et demi, il y aura une étude sur les lettres de suicide avec toutes mes théories. Mais j'esquisse quand même... pas mal de pistes de réflexion et de théories à la fin, dans la postface, qui fait une vingtaine de pages, qui, pour le coup, oui, est une espèce de concentré de mes théories sur les lettres de suicide. Mais je n'ai pas voulu donner non plus trop. Mais voilà, il y aura d'autres livraisons. Mais oui, si, sinon, sous forme de produits dérivés et autres goodies... c'est que là, je suis en train de mettre en place de tout ce qui peut être lecture en public, à voix haute, mise en scène, mise en espace, pièces radiophoniques. Enfin, je décline absolument tout. Parce que bon, c'est là, je suis. Enfin, je rigole un petit peu parfois, mais là, je suis sérieux. C'était ces années avec ces lettres de suicide. À les retranscrire, à les trouver, à nourrir un lien fort avec ses défunts, eh bien, j'ai compris que ce n'était pas un matériau comme les autres. Et sans être pédant ou grandiloquent, j'ai ressenti une certaine responsabilité par rapport à ces lettres. Quand j'ai sorti ce bouquin, pour moi, il était très clair qu'il ne fallait pas que ces lettres soient juste rangées dans une bibliothèque. Ce qui est très important pour moi, c'est de porter ces voix, c'est de faire entendre ces voix au-delà du livre, et de pouvoir les dire, c'est pour ça que j'insistais, pour faire des lectures à haute voix, pouvoir faire vibrer ces morts. Donc voilà à peu près ce que j'aimerais, c'est de continuer à faire entendre ces voix par la lecture à haute voix, par les rencontres comme ça.
Et t'es pas attaché ?
Ah si, bien sûr. Bah si, bien sûr, il y a des... Ça, c'est aussi un effet du travail, c'est que on fréquente certains morts. Mais quand je dis qu'on les fréquente, c'est comme on les fréquente physiquement, puisqu'on est avec leurs lettres, on s'habitue à leur écriture. Et puis pour comprendre ce qu'ils ont écrit, il faut aussi chercher dans leur famille, il faut chercher dans leur quotidien. Et il y a des lettres, enfin, bon, je ne vais pas prendre des exemples, mais en moyenne, une page de lettre de suicide, une lettre de suicide, ça me prenait minimum une journée entière de travail. Mais minimum pour une page. Donc vous imaginez quand c'était des lettres de 6, 7, 8 pages, où là j'en ai pour, je passais parfois un mois avec un cadavre dans mon classeur. Mais oui, bien sûr, je me suis attaché. Et bien sûr, il y a certaines lettres, Brigitte Nourry qui finit en disant son nom, oui, c'est une personne qui m'a marqué, tout comme il y a un certain Jean, 13 ans, qui s'est tiré une balle dans le parc Monceau parce que sa mère le traitait d'abruti, auquel je suis attaché. Il y a d'autres lettres que je vous laisserai découvrir, mais, auxquelles j'étais attaché, effectivement. Il y a, à la fin du XVIIIe siècle, il y a une raison qui se fait de plus en plus pressante et qui était un petit peu... qui n'était pas complètement inexistante, mais quand même, c'est la raison amoureuse. Enfin, au XVIIIe siècle, on ne se tuait pas parce qu'on était amoureux. Enfin, on se tuait parce qu'on n'avait plus d'argent, ou alors on se tuait parce qu'on avait perdu l'honneur. Ça, c'était important. Et ça, c'est intéressant, c'est que la notion d'honneur aussi, entre homme et femme, est très différente. On a perdu l'honneur quand on est un homme parce qu'on n'a pas tenu parole, ou parce qu'on a fait preuve de lâcheté. L'honneur, quand une femme dit qu'elle a perdu l'honneur, eh bien, c'est la conduite sexuelle, typiquement. Donc, il y a des changements. Au sein de la société. Qu'est-ce que ça veut dire être un loser en société. Entre le 19e siècle et le 20e siècle, c'est pas la même chose. Donc on voit des causes évoluer. Simplement aussi, on parlait de la douleur, de la maladie au 18e siècle, avec l'emprise de l'Église catholique. Et bah, tu assumes, tu fais pénitence. Ta douleur, tu la prends comme Christ en croix. Au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, avec le changement médical, avec l'arrivée des narcotiques, l'arrivée des anesthésiques, il y a plusieurs suicidés qui disent « mais je ne vais pas rester comme ça, je termine ». Alors, ça, c'est assez difficile à dire pour moi, parce que je me suis surtout intéressé à ceux qui laissaient des lettres. Mais oui, j'ai l'impression... C'est juste une impression. Je ne suis pas statisticien, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas une plus grande intention accordée au suicide de jeunes. Il y a quelques lettres d'enfants, 12, 13 ans, parfois un petit peu moins, dans ce recueil. Après, il faut faire attention, c'est que, comme je vous ai dit, le suicide pendant longtemps, et ça continue, a été tabou. Au XVIIIe siècle, c'était un crime. On traînait le cadavre dans les rues. Donc ce qui est arrivé aussi très souvent, c'est que la famille dissimule le suicide. Donc il y a aussi toute une part qu'on n'a pas. Non, mais les problématiques n'étaient pas les mêmes. Après, ce qui est intéressant, c'est que quasiment toujours, ce qui m'a frappé dans les lettres d'enfants, c'est qu'il y a un côté dans l'expression qui est encore, on va dire, dans l'enfance, encore avec des formules un petit peu pas très élaborées, ou en tout cas un vocabulaire qui est plutôt du registre de l'enfance, et des expressions très adultes. Ou alors où on a vraiment le sentiment que leur première décision d'adulte, ça va être de se tuer. Il ne faut pas oublier, et ça c'est intéressant, c'est que le enfant, ça vient de infans en latin, c'est celui qui n'a pas la parole, celui qui ne sait pas encore parler. Donc à partir du moment où on va prendre la parole pour dire « je me tue », on va prendre la parole, on sort déjà un petit peu de l'enfance. C'est quelque chose d'intéressant.
Et peut-être que j'ai raté quelque chose au début, mais est-ce que tu nous as dit pourquoi tu t'étais arrêté en 1948 ?
Non, effectivement, on a oublié de parler des bornes, excusez-moi, mea culpa, mea maxima culpa. Les bornes temporelles, ça a été décidé par les archives. Moi, je voulais un temps long sur 250 ans pour qu'on voit l'évolution du rapport à la mort, l'évolution du discours. Tout simplement dire adieu en 1700, c'est pas la même chose, ça signifie pas la même chose que dire adieu en 1940. Donc voilà. J'ai commencé au XVIIIe siècle tout simplement parce que avant le XVIIIe siècle, dans les archives, on trouve rien ou quasiment rien. Enfin, ça veut pas dire que les lettres de suicide n'existaient pas avant le XVIIIe siècle, ça veut juste dire que ça n'apparaît pas dans les archives. C'est une première chose. Et je me suis arrêté en 1947-1948 pour des raisons à la fois d'ordre pratique, éthique et esthétique, on va dire. D'un point de vue pratique, c'est que à partir de 1947-1948, les archives sont regroupées et ça devient gigantesque. Ça explose. Par an, je pouvais trouver des milliers de lettres de suicide. Donc je pouvais tout simplement plus gérer le flux. Ça, c'est une première chose. D'un point de vue éthique, tout simplement, 1947-1948, quand les gens se tuent, il y a de gros risques que les descendants soient encore en vie. Et effectivement, il y a certains suicidés dont la famille était encore en vie. Donc, soit je les ai contactés, soit avec ce léger problème de « oui, bon, j'ai trouvé une lettre qui... peut-être vous dit quelque chose. Bon. » Ou alors, j'ai tout simplement supprimé ces lettres de mon corpus. Puisque, soyons très clairs, même si j'ai une perspective littéraire sur ces lettres, même une très belle lettre de suicide, je n'allais pas la publier au risque de blesser les descendants. Ça, c'était... c'est évident, en fait. Donc, c'était une raison éthique. Ensuite, donc, 75 ans, ça me paraissait être une bonne distance, hein, pour éviter ce genre de choses. Et esthétique, on va dire, puisque 75 ans, de manière fort opportune, en France, C'est exactement le nombre d'années pour que les droits d'auteur tombent après la mort. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur à payer. Ça peut paraître un petit peu cynique comme ça. Non, ça ne l'est pas. C'est parce que tout simplement, moi, ça me permettait, et avec ce recueil, c'était quand même cette idée, de considérer aussi ces scripteurs comme de véritables auteurs, et non pas des cas sociologiques ou des cas historiques ou quoi que ce soit. Pour moi, à mes yeux, ce sont de véritables auteurs. Donc, on attendait que les droits d'auteur tombent. C'était Michel Foucault qui écrivait dans son article « Qu'est-ce qu'un auteur ?» qu'il a commencé à avoir des auteurs à partir du moment où on pouvait punir les auteurs. À l'époque moderne, à l'époque contemporaine, et bon, les éditeurs qui sont présents dans cette salle ne vont pas me contredire, mais je pense aussi qu'il y a auteur à partir du moment où on peut voler, on peut arnaquer l'auteur. Voilà.
Bon, merci beaucoup Vincent, merci Paul. Seul, pardon. Et très bonne soirée. Vous pouvez continuer à discuter. Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h. 92.2 sur Canal Sud.